Jean 17, c'est cette fantastique prière que le Seigneur fait juste avant sa trahison. En fait, cette prière est dite juste avant qu'il prie le Père dans le jardin de Gethsémané les trois fois quand il demande que le Seigneur enlève la coupe. Et donc c'est intéressant que nous avons tous ces renseignements là-dessus. Je veux dire, toute cette longue prière, qui d'ailleurs est une des plus longues prières écrites dans la Bible, que ça n'apparaît pas dans les autres évangiles. Par contre, Jean, il a capté, et nous sommes vraiment contents, parce qu'avec un tel passage, ça nous donne beaucoup de renseignements sur le cœur de Jésus et sur qui il est. Il y avait une phrase, enfin un petit jeu de mots qui marche très bien malheureusement mieux en anglais qu'en français par G. Campbell Morgan qui disait en fait c'est la parole de Dieu qui énonce un petit mot de prière. Et c'est là toute la puissance, c'est la parole de Dieu qu'il prie Dieu. Chose intéressante, c'est que c'est conversationnel. C'est une conversation tout simple entre lui et le Père. Nous avons l'habitude de penser au Notre Père comme la prière classique. Mais il faut dire que le Notre Père, en fait, ça c'est la prière pour nous. Et Jésus ne peut pas prier ça. Parce que dans le Notre Père, on demande d'être pardonné de nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais Jésus n'a jamais péché. Donc ça ne peut pas être ça. Nous, ici, nous avons la prière de Jésus et il y a toute notre idée, toute notre optique. Et comme on a vu souvent dans l'Évangile selon Jean, il y a ces trois thèmes qui reviennent dans cette prière, les thèmes qu'il a dit dès le début, Jésus est la vie, la lumière, et il est aussi l'amour. Et donc, la vie, la lumière et l'amour sont présents. Parce que, traditionnellement, on divise justement ce passage en trois parties. Le passage où Jésus, il parle à Dieu et il prie pour lui-même. Et là, nous allons voir, c'est là où la vie est exposée. Ensuite, il parle pour ses disciples. Et là, on va voir que c'est la lumière qui est éclairée. Et enfin, quand il parle à l'Église globale, ou pour l'Église globale, c'est là où ça se base plutôt sur l'amour. Donc, il n'y a pas de surprise, en fait. Ça rejoint tout depuis le début. Ça montre sa divinité, parce qu'il ne prie pas comme les autres prient. Et ça montre surtout le cœur du Seigneur, l'amour qu'il a pour son Père. Et, je suis persuadé, ça montre aussi ce qu'il souhaitait pour nous, ce que le Seigneur veut connaître de nous en termes d'amour et d'affection. Parce que c'est normal d'avoir des émotions fortes pour Dieu. Ce Dieu si merveilleux qui nous a sauvés, qui a fait tellement de choses pour nous. C'est anormal justement d'être tranquille, neutre, sans grande émotion. Ça doit nous émouvoir, je crois. Et verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Alors ça commence tout de suite par la gloire. Glorifie ton Fils, il dit, en parlant de son heure. En fait, Jésus était glorifié par son heure, par la croix, parce qu'il est devenu le sacrifice pour tout temps. Il est devenu ce sacrifice expiatoire qui a apaisé la colère de Dieu, qui, pour une seule fois, pour toute éternité, a lavé le péché, péché présent, passé, futur. Mais ensuite, il est glorifié aussi dans sa résurrection, parce que, si vous voulez, c'est le sceau du Père pour que nous sachions pour toujours que son sacrifice a été agréé. Il ressuscite plein de vie. Et donc, il reçoit un corps de gloire. Mais encore plus, il monte au ciel. Il s'assit à droite du Père en plein de gloire. Là où il vit, il demeure pour intercéder pour nous. Selon Hébreux 7, verset 25. Donc ça continue. Il est glorifié. En ce qui concerne justement cette idée que Jésus prie les yeux ouverts, il regarde vers le ciel. C'est intéressant ceci parce que nous avons tout à fait notre habitude, fermer les yeux. Mais ça montre aussi que ce n'est pas obligatoire. On peut prier la tête levée aussi. Sinon, s'il fallait toujours s'agenouiller ou fermer les yeux, baisser la tête, vous ne pouvez pas prier dans le métro. Vous ne pouvez pas prier au travail. Mais le Seigneur nous a laissé ouvert justement. Il y a des moments où la meilleure position pour prier, c'est la face contre terre. Et ça, c'est justement dans votre placard toute seule quand personne ne vous voit. Sinon, ça attire l'attention vers vous. Ça c'est pas génial non plus. Mais il y a des moments justement pour, dans la congrégation aussi, pourquoi pas lever les yeux, lever les mains. La prière peut être dans n'importe quelle position, mais c'est le cœur qui compte. Parce que Jésus, il pouvait prier, Père, glorifie-moi, mais nous, notre but, c'est de glorifier le Père, de glorifier le Fils, et de ne pas attirer la gloire à nous. Alors, il dit, glorifie ton Fils, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Notez bien, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Donc qu'il sera glorifié dans la mesure qu'il a reçu le pouvoir du Père. Et pourquoi il a reçu ce pouvoir? Pour donner la vie éternelle. Mais notez-le bien, il a le pouvoir sur toute chair. Il donne la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Ainsi, il est glorifié, comme il dit en Philippiens 2. Tout genou fléchira devant Jésus et il confessera le nom de Jésus-Christ à la gloire du Père. Donc, soit il s'agenouille ici devant lui, soit c'est devant le trône, et ça sera trop tard. Mais il a le pouvoir sur toute chair. Et s'il a le pouvoir sur toute chair, ça nous fait rappeler que il est mort pour toute personne. Parce que s'il juge les uns pour la condamnation, c'est parce que ils ont refusé le don gratuit de sa vie éternelle. Donc, le pouvoir sur toute chair est lié justement à son sacrifice pour toute personne. Or, ce n'est pas que tout le monde aille direct au ciel. Non, il donne la vie éternelle à ceux que le Père lui a donné. Ainsi, nous voyons que le sacrifice et le pouvoir de Christ sont pour toute personne. Il y a beaucoup appelés, mais il y a très peu d'élus finalement. Et qui sont élus? ceux qui sont élus sont ceux qui, finalement, ont choisi. Il y a les deux qui marchent au même moment, mais on ne peut pas contredire l'élection de Dieu qui est évidemment prononcée ici. C'est le Père qui lui a donné ces personnes. Et d'ailleurs, c'est assez remarquable que finalement, nous qui croyons en Jésus, nous sommes comme un cadeau entre le Père et le Fils, finalement. Nous sommes donnés à lui, présentés à lui, nous sommes gardés à lui, gardés pour lui. Et ça, pour la vie éternelle. Et c'est intéressant que Jésus, il prit ces choses pour lui-même. Parce que, est-ce qu'il y avait une possibilité sur la terre ou dans le ciel que ces choses ne puissent pas arriver? Franchement, pourquoi il prit ça? C'est pour nous, pour que nous sachions. Mais aussi, ça montre aussi sa dépendance sur le Père. Encore pour nous, pour que nous rendions compte que, si il a agi ainsi, d'autant plus, nous devons agir de même dans ses traces. Et concernant la vie éternelle, je suis vraiment reconnaissant pour verset 3 qui est la définition. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà la vie éternelle, qu'ils connaissent le Père et Christ. La vie éternelle, donc, ce n'est pas une quantité, mais une qualité de vie. Certes, il n'y a pas de fin. Nous sommes donc des êtres destinés à l'éternité. Et il n'y a pas de fin dans cette éternité. Mais ce n'est pas ça qui compte. Le vrai cœur de la vie éternelle, comme c'est défini par Jésus, est de connaître Dieu. Parce que même dans la Nouvelle Jérusalem, comme elle est décrite en Apocalypse chapitre 21, il n'y a pas de lune. Il n'y a pas de soleil, mais c'est Dieu qui est la lumière. Il n'y a pas de temple non plus, parce que c'est l'agneau. Alors, pour toute éternité, nous vivrons dans des conditions meilleures qui puissent être connues ici-bas. Mais nous commençons notre connaissance de l'éternel ici-bas. Et puis, ça va grandir tout au long de notre vie, jusqu'à ce que nous entrions dans une connaissance au-delà de nos capacités ici-bas. C'est ça la vie éternelle. C'est déjà une belle chose maintenant, mais une fois à l'au-delà, ça va être encore mieux. Mieux de ce qu'on puisse dire. Tellement beau que Paul, quand il a essayé de le décrire en 2 Corinthiens chapitre 12, il disait qu'il a vu des choses qui sont, enfin, le mot qu'il emploie, c'est presque illégal de le dire. Ça ne convient pas de le dire. Il n'y a pas de mot qui correspond. Alors, Dieu se révèle à nous maintenant. Nous le connaissons ici. C'est une relation et ça commence par la foi en Christ. Verset 4, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. C'est intéressant, j'ai achevé cette œuvre, c'est fait. Il n'est pas encore crucifié, mais c'est fait. Et ça, c'est typique de la prophétie et de la mentalité de Dieu. Comme il est l'alpha, l'oméga, Jésus. Il est en dehors du temps, enfin le Père à ce moment-là. Et donc, Jésus est l'agneau, comme il dit en Apocalypse, l'agneau immolé. Et ça, avant la fondation du monde, ces choses ont été déjà décidées bien avant. Et donc, dans les pensées dans l'esprit de Dieu, c'est fait. Si vous voulez, c'est comme nous. Est-ce que ça vous est arrivé d'être dans une situation telle que, ben, une interview, par exemple, vous vous entraînez pour l'interview. Si le patron vous demande une chose, vous avez déjà préparé votre réponse. Vous savez exactement ce que vous allez dire et comment vous allez vous présenter. Vous avez déjà choisi vos vêtements. Tout est prêt. En fait, si vous voulez, la seule chose qui reste à faire, c'est d'y aller. Mais dans votre esprit, c'est fait. Vous savez exactement ce que vous allez dire, comment vous allez présenter. Enfin, tout est fait. Et si nous pouvons procéder de cette manière-là, ça nous donne une petite idée de comment c'est vu par Dieu, mais encore, pour Dieu, comme il est hors du temps, il n'y a pas de question qui va s'esquiver. Non, il va direct. Mais dans le cœur de Dieu, c'est déjà fait. L'œuvre est déjà faite. Et ça nous encourage aussi, à nous qui voulons suivre dans les traces de Jésus pour accomplir sa volonté. Ça nous encourage à prier pour que sa volonté se réalise en nous. Parce que, sachant que c'est sa volonté, et que quand Dieu décide une chose, c'est déjà fait dans son esprit, si nous prions pour sa volonté, ça nous aide à s'orienter dans la bonne direction pour aller dans la direction de sa volonté. Et il est fidèle. D'une manière ou d'une autre, il nous dirigera. Il y a plusieurs manières, soit par la parole, soit par la prière, parfois aussi par l'Église, ou parfois, il nous laisse le temps de choisir, et après qu'on choisit, nous voyons qu'il nous a dirigés aussi. Dieu est fidèle. Si nous voulons suivre sa volonté, il ne va pas nous laisser tomber. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Là, on parle après la résurrection, quand il monte au ciel. Et quand Jésus dit de telles phrases, on ressent vraiment cette hâte qu'il avait d'aller au ciel, d'être avec son Père. Enfin, terminé. Plus ce temps de douleur, mais enfin, il retourne dans la gloire qu'il avait avant d'être proche avec son Père. Parce qu'il a accompli sa mission, finalement. Il aimait son Père. Il aime le Père. Comme le Père l'aime aussi. Et pour nous, c'est toujours une bonne question qui dévoile vraiment la condition de notre cœur. Mais c'est bien de se poser la question. Est-ce que j'ai hâte d'aller au ciel, être avec Jésus? Ou est-ce que je fais de ma vie un paradis sur terre? Non, c'est Jésus nous a montré. Et donc, nous avons vu dans ces premières 5 versets où Jésus prie pour lui-même. C'est rempli de vie. Vie, la vie éternelle pour les autres. Mais c'est cette vie, cette gloire qui est associée à sa résurrection et sa position en gloire aussi. Jésus est la vie. Et puis, il continue sa prière. Maintenant, il se dirige vers les disciples. Et verset 6, il dit, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. » Notez bien qu'ils étaient au Père déjà. Le Père les a connus d'avance. Avec donc cette élection, prédestination si vous voulez, la bénédiction. Eux, ils sont appelés, eux, ils sont connus pour être bénis. Mais, tout de même, quand Jésus a dit, suis-moi, ils l'ont fait, ils l'ont choisi. Alors, comment résoudre justement ça? Et j'avoue que je ne sais pas. je ne sais pas, mais je sais que les deux sont également prêchés dans la Bible. Et c'est seulement quand on supprime une des deux options que c'est là où il y a des problèmes. Mais il me semble, même dans la prière, c'est Jésus qui le dit de toute évidence. Et notez-le bien, que Jésus n'essaie pas non plus de tout expliquer, mais il le dit tout simplement. Spurgeon a utilisé une très belle image à cet égard, en parlant d'une autorité sur l'art, un expert d'art, qui est allé au musée avec des amis, et c'était un homme assez âgé qui marchait avec une canne. Et en venant devant un tableau qu'il admirait beaucoup, mais qu'il utilisait pour ses cours justement, il levait la canne pour décrire la peinture et les méthodes du peintre. Et puis, en s'approchant, il ne faisait pas attention parce qu'il était tellement dans ses descriptions que, en fait, il a pénétré le tableau avec sa canne et il a fait une petite déchirure dans le tableau avec sa canne, tellement il était là-dedans dans sa description. Et enfin, ce maître d'art a détruit une de ses tableaux préférés parce qu'il était tellement dans ses descriptions. Et voilà une très belle image de ce qu'on peut faire si on rentre trop dans les détails l'un à l'autre, soit pour le libre arbitre ou soit pour l'élection. On peut aller trop loin jusqu'à ce qu'on détruise la beauté, la souveraineté de Dieu, de comment Dieu peut faire des choses qui nous semble impossible. Mais il est Dieu, après tout. Pourquoi pas garder le mystère de sa toute-puissance et avoir la révérence de ne pas aller là où on n'a pas des descriptions sûres. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi, tu m'les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ils ont passé 3 ans avec Jésus. Mais encore, c'est prophétique dans le sens qu'on peut même les voir à la fin de leur jour, quand ils reçoivent des récompenses pour une vie bien vécue dans le Seigneur. Ils ont gardé ta parole. Le Seigneur voit les choses ainsi. Car comme il est dit en Job 24, il a cette capacité miraculeuse et même puissante. Comme il est dit Jude 24, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable. Et dans l'allégresse, c'est Dieu qui peut faire ça, et Dieu seul. Donc nous voyons que Dieu y voit les choses ainsi. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils ont reconnu cela au moins dans ce dernier repas, quand ils ont parlé, Jésus il leur a montré finalement qui il est. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et qu'ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est comme Pierre disait ce jour en Jean 6, quand il semblait que tout le monde allait abandonner Jésus et Jésus se tourne vers ses disciples. Verset 67 de chapitre 6, il dit « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Donc ils ont compris qui il est. Et même si tout le monde l'abandonne, il ne voulait pas. Justement, il venait de dire, dans la chambre haute, Pierre surtout, même si les autres vont t'abandonner, pas moi, Seigneur. Pas moi. Et il était sérieux. Il était sérieux et il voulait aller jusqu'au bout de son amour pour Christ. Parce qu'ils ont reçu ses paroles. Imaginons, justement, les études bibliques qu'ils avaient avec Christ. Ses capacités étonnantes d'exposer les Écritures et de bien expliquer, de parler. Et son autorité qu'il avait. Bon, il y avait des grands moments où il y avait des foules et tout. Mais il y avait aussi des moments qui n'ont pas été enregistrés dans les évangiles. Juste en étant avec lui, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre juste en étant avec quelqu'un, juste en demeurant avec quelqu'un. Et c'était leur privilège, justement. Ils ont reçu cette parole. Et c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Alors, la question vient, alors pourquoi Jésus ne prie pas pour le monde? S'il est mort pour le monde, selon Jean 3,16, pourquoi il ne prie pas pour le monde? Parce qu'ici, il ne s'agit pas du salut, mais justement, en ce qui concerne le salut, il est mort pour le monde. Il faut dire, Jésus a tout fait pour n'importe qui, pour que personne n'aura une excuse dans sa présence. Tout est fait. Et donc, maintenant, il a envoyé le Saint-Esprit dans le monde. Et c'est le Saint-Esprit même maintenant qui convainc le monde du péché pour ne pas avoir cru en lui. De la justice de Christ parce qu'il monte au Père. Et du jugement parce que le malin est jugé, comme nous avons vu la semaine dernière en chapitre 16. Et si le Saint-Esprit est dans le monde, il convainc le monde du péché, de justice et de jugement. C'est pour attirer les gens à Christ, pour qu'ils soient sauvés. Encore, tout est fait pour que les gens viennent à lui. Mais maintenant, il prie pour ses disciples. Et j'aime ça, parce que nous savons, comme nous avons dit tout à l'heure, que Christ intercède pour moi. Notez à quel point c'est personnel. Il prie individuellement. Comme dans un des évangiles, juste avant que Jésus annonce que Pierre va renier le maître, il a dit, mais j'ai prié pour toi. Satan voulait te cribler, il voulait te mettre à l'épreuve, mais moi j'ai prié pour toi. Il prie pour nous comme il a prié pour eux. Et quelle est sa prière? Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Il veut être glorifié en eux. Et il est aujourd'hui. Quand nous regardons la vie des apôtres, après la venue du Saint-Esprit, nous voyons Christ était glorifié. Chaque fois ces gens ouvraient la bouche, ils confessaient Christ, sa résurrection, sa puissance, sa croix. Ils ont glorifié Christ. J'imagine qu'ils avaient pas seulement cette force, mais cette intimité qu'ils ont vue. Ils ont essayé au mieux d'imiter ça dans leur vie. Nous voyons aussi Pierre, le jour où il a reçu la vision concernant le cette nappe qui descend pour aller aux païens. Il était en train de prier quand ça s'est arrivé. Il priait sur le toit. Où est-ce qu'il a eu ça? Si ce n'était de Jésus. Et nous voyons que Jésus est glorifié et vu en eux. Alors il poursuit. Je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Moi, je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Donc le nom de Dieu, on parle de toute sa personne, de tous ses attributs. Garde-les en toi, Seigneur, c'est ce qu'il dit. Garde-les en toi pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Et à part des versets où on nomme Pierre, où on nomme comme Barnabas ou bien Paul, on parle des disciples. Parce qu'ils étaient un, ils étaient unis, unis dans l'esprit. Exactement comme Jésus a dit. Ils étaient unis dans leur enseignement. On parle de l'enseignement ou de la doctrine des apôtres, qu'ils étaient un. Et lorsque j'étais avec eux, je gardais en ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Judas, il a, comme on a vu il y a quelques semaines, en chapitre 13, il a choisi finalement son sort. Jésus lui a donné des chances et des chances. Ce qui est intéressant, c'est que, et Anton a fait allusion à ça hier soir, c'est que Christ, il le savait. Et pour retourner en Jean 6, verset 70, Jésus, il a dit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze ?» Et l'un de vous est un démon. Si vous voulez, Judas est celui qui n'a jamais rien compris. Mais encore plus, il était un démon. Ce n'est pas seulement qu'il était bête. Non, il était un démon. Fils du diable, fils de perdition. Et comment on le sait? Parce que nous savons que, pour reprendre les paroles de Jésus, le diable est un menteur, le père des mensonges, et meurtrier. Et Judas se cachait. Donc il mentait à tout le monde. Jésus le savait, il a dit qu'il est un démon. Il a choisi. Judas était d'accord. Mais il mentait comme son père, le père des mensonges, ment. Et finalement, le fruit de cette relation diabolique produit la trahison qui va vers le meurtre. Et ça, c'est notre Judas, finalement. Fils de perdition. Bien sûr, il était perdu, mais les autres, non. Et ça, c'est génial, parce que qu'est-ce qu'on a dans les onze? On a Thomas qui parfois est très fort, oui, allons avec lui et mourir avec lui, dit en chapitre 11. Et puis, après sa résurrection, ben, il faut qu'il se présente devant moi et que je touche ses mains et son côté. Thomas, celui qui est fort et puis qui doute, lui, il est gardé dans les mains de Dieu. Pierre, impétueux, il fait tout et n'importe quoi, il dit n'importe quoi, et puis, lui aussi choisit. Et il y a Jean et Jacques, les deux frères, appelés les frères de tonnerre. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient appeler le feu qui descend du ciel pour engloutir une ville en Samarie. Eux aussi sont gardés, parce que finalement, ils sont comme nous tous. Et Jésus, dans sa grande patience, il a su les garder dans la main de Dieu, comme seulement Dieu sait garder nous dans nos imperfections. Finalement, Dieu ne va jamais nous abandonner. Et maintenant, verset 13, « Je vais à toi, je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Sa joie parfaite, ça vient par le Saint-Esprit. Il faut, comme il a dit en chapitre 16, qu'il s'en aille afin que le Consolateur vienne, pour qu'il reçoive sa joie. On a vu, donc, qu'il mange là. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Et notez-le bien, ils sont tirés du monde, arrachés du feu. Pourquoi? Parce qu'ils sont choisis, mis à part pour Dieu. Ils ont une mission. Et cette mission, d'une part, était bien sûr d'écrire le Nouveau Testament, mais aussi de mettre les fondations de l'Église. L'Église dont nous faisons partie aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il soit enlevé du monde, mais qu'il reste dans le monde, mais qu'il soit protégé du malin. Parce que le malin peut justement embrouiller et forcer, provoquer le désespoir, surtout face à la persécution. C'est aussi une chose pour nous. Nous ne sommes pas appelés à une vie monastique. Nous ne sommes pas appelés à se retirer du monde. Nous sommes appelés à aller dans le monde. C'est bien d'être dans le monde. Parce que, on ne sait pas si vous avez promené un petit peu dans le quartier de la place de Vendôme, où il y a toutes ces bijouteries de haut niveau. Mais souvent, si on va dans, je sais pas, chez Cartier ou Tiffany, souvent on met les plus belles pièces sur un fond noir. Parce que ça fait briller justement ces belles pierres. Ben justement, ça c'est nous. En mettant un chrétien vivant, rempli du Saint-Esprit, dans le monde où tout est noir, alors ça fait briller la lumière. Et ça, c'est la volonté de Dieu, pour que les gens viennent à lui, qu'ils soient attirés par la beauté de ce que Dieu fait dans cette personne. C'est donc voulu par Dieu, quelque part, dans ces derniers temps, quand on se voit entouré des ténèbres, souvent on a cette tendance de crier « Oh Dieu, sauve-moi, enlève-moi de ça !» Mais peut-être il ne veut pas nous enlever de ça, il veut justement nous laisser traverser justement, ou demeurer comme un beau diamant chez Cartier, avec un fond noir derrière, certes, mais qu'est-ce que ça fait de nous ? Des diamants. Et ça, par la volonté de Dieu. Pas de nous-mêmes, mais toute gloire à lui. Et donc, verset 16, 17, « Sanctifiez-les par la vérité. Ta parole est la vérité. » Alors que j'aime bien cette phrase. C'est pas « Ta parole est une vérité. » Ou « Tout est relatif, mais c'est une bonne vérité. » C'est pas de ça. C'est ta parole et vérité. Point. Et sanctifiez-les par la vérité. Le mot sanctifier ici, ça veut dire mise à part. Et c'est-à-dire que nous sommes aussi sanctifiés par la même manière. Le plus que nous recevions de la bonne doctrine et de la bonne enseignement et de la Bible, le plus que nous sommes changés par cette transformation dans notre cœur, le plus que nous nous ressemblions à Christ, le plus que nous sommes sanctifiés finalement pour faire l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est pourquoi justement les apôtres en Acte 6 voulaient justement se consacrer à la parole, à l'étude de la parole et la prière. Ils n'ont pas encore écrit le Nouveau Testament. Il fallait qu'ils révisent. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que aussi soient sanctifiés dans la vérité. Alors quand Jésus dit « je me sanctifie », ça ne veut pas dire qu'il soit perfectionné. Non, il s'est mis à part pour aller à la croix, pour que après, par sa vie en eux, après sa résurrection, venue du Saint-Esprit, eux, ils soient dirigés, et nous aussi d'ailleurs, dans la vérité. C'est l'Esprit, justement, qui nous enseigne dans la vérité, mais surtout pour eux, tout ce qu'ils avaient comme fondation de l'Église, mais aussi pour nous aussi. Alors, et tout ça, nous avons vu donc la lumière, quand il prie pour ses disciples. La lumière, donc, qui est dans, maintenant, ses disciples, il prie pour eux, pour la lumière soit en eux, pour que cette lumière brille, en tant que la fondation de l'Église, finalement. Mais que la lumière brille dans la parole de Dieu, et tout ce qu'ils ont à faire, c'était ça la prière de Jésus. Encore, c'est exaucé par le Père. Et enfin, il élargit encore plus. Et notez bien, en tant qu'observation qu'on peut faire concernant l'ordre du Seigneur, il a commencé avec lui-même. Et si Jésus a prié pour lui-même, on ne doit pas avoir honte de prier pour nous-mêmes. Mais notez qu'il a commencé avec lui-même, puis ceux qui sont proches, et puis le monde. Il n'a pas commencé « Ô Seigneur, qu'il y ait la paix sur terre » et puis d'autres choses. Non, il n'a pas commencé grand, mais c'était plus logique. Et je trouve que c'était une très bonne méthode, finalement. On peut prier pour nous-mêmes, mais commençons avec des choses spécifiques. Comme il est dit aussi dans la prière qu'il nous a donnée comme exemple. Je trouve que c'est toujours une bonne méthode de commencer avec adoration, avec des remerciements. Il dit Père céleste, que ton nom soit sanctifié. Enfin, ce sont des louanges d'adoration finalement. Que ton nom soit, et parce qu'il est sanctifié. J'entre dans tes portes avec louange dans mon cœur. Ce sont des choses qui sont aussi enseigner des bonnes pratiques pour la prière. Enfin, maintenant, en ce qui concerne nous, plus directement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas appliquer ces autres choses à nous, mais plus spécifiquement, contextuellement, c'est là où il commence réellement à parler à nous. Et ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore, pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Notez-le bien, ça c'est clé. Qui croiront en moi par leur parole. Donc la doctrine des apôtres. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Que aussi soit un en nous. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pour l'Église globale, qu'est-ce qu'il prie? Il prie pour l'unité. Mais la question qui se pose, là on a vu que le Père a répondu, a exaucé toutes ses autres prières. Et quand on voit l'histoire de l'Église, on s'est dit, mais est-ce que le Père n'a pas exaucé la prière de Jésus? Alors, il faut que vous veniez dimanche parce que nous allons répondre à cette question. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, encore, c'est de vous rappeler de ce mot-clé. Et ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. C'est-à-dire, nous ne parlons pas de toute personne qui se dit chrétien, mais seulement qui ont une réelle foi basée sur la doctrine des apôtres. Et qu'est-ce que ça m'enseigne? Ça m'enseigne que je dois avoir normalement une fraternité, un amour fraternel avec les autres chrétiens. C'est normal. C'est ce que veut le Seigneur. Mais une autre chose aussi, et on va en parler encore plus dimanche, et c'est que lorsqu'il évoque la gloire, et la gloire qui est à lui, cette gloire donc dans l'Église, nous parlons de l'Église parfaitement rassemblée lors de la du retour du Seigneur. Quand l'Église sera enfin rassemblée et aussi perfectionnée finalement. Et c'est ainsi, c'est à ce moment aussi d'ailleurs que le monde reconnaîtra finalement qui est Jésus réellement. Parce que ils vont le blasphémer tout au long de l'histoire humaine jusqu'au jour où il revient pour juger. De même manière, c'est à ce moment-là qu'ils reconnaîtront la vraie Église. Tout comme il dit en Romains 8, en parlant de la création qui soupire et qui attend avec hâte la révélation des fils de Dieu. Notez-le bien, la révélation des fils de Dieu en parlant de ces derniers temps. Donc, pour répondre à la question, c'est impensable qu'une prière de Jésus ne soit pas exaucée. Mais c'est plutôt notre façon de voir qui est erronée. Donc il faut changer de lunettes. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée. Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Encore en parlant de sa gloire partagée avec l'Église, mais pour qu'on contemple sa gloire, donc encore en parlant de ces derniers temps, quand on sera avec lui, nous pouvons contempler sa gloire d'une manière maintenant. Mais comme il dit en 1 Corinthiens 13, nous voyons comme dans un miroir, et pas un miroir comme aujourd'hui, mais un miroir à l'ancienne. Et pour voir ça, si vous voulez, vous pouvez aller au Louvre, au British Museum, si vous voulez. Mais là, ce n'est pas la même chose, donc c'est flou. Ce n'est pas aussi bien qu'on puisse voir dans un miroir aujourd'hui, mais un jour, on verra sa gloire comme il faut. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je suis en eux. Il est en nous et nous sommes en lui. Et qu'est-ce qu'il veut produire par ceci? C'est le don excellent dont parle Paul en 1 Corinthiens 12. C'est la voie excellente, c'est l'amour. C'est l'amour, l'amour qui vient du Père, l'amour les uns pour les autres. Comme Jésus a dit en chapitre 13, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Finalement, quel est ce commandement pour l'Église? C'est l'amour. Et enfin, nous voyons entre cette dernière partie de cette prière, Jésus veut que nous vivions dans l'amour. Alors, pour reprendre les paroles du Maître, aimez-vous les uns les autres, comme Jésus vous a aimés.